C'était convenu comme ça, Ken? Maintenant, ceux qui ont une obligation impérative la reporteront à la semaine prochaine. Alors, vous prenez la paracha d'abord dans Bemidbar, la paracha de Matot. Comme vous le savez, cette semaine, enfin cette année, la paracha de la semaine est double. Il y a à la fois Matot et Masri, qui sont les deux dernières parachiot du livre. Nous allons commencer par le début de la paracha. Mais avant cela, quand même, je voudrais vous demander, comme d'habitude, si vous avez un sujet particulier sur ces deux parachiot, de me le dire tout de suite. Donnez-moi le crayon. Tiens, tout à coup. Une question qui concerne le sujet de la paracha. On peut allumer, là. Vous avez un bouton là-bas. Un papier. Ah voilà, ça va mieux. Je sentais qu'il y a quelque chose. C'est. Je t'écoute.
Pendant des années, vous nous promettez la guerre contre les Midianites. La guerre contre les Midianites, et puis c'est toujours repoussé.
Bon, d'accord, à part ça. C'est pas une question, c'est une déclaration. Bien, alors on commencera par là si vous voulez, mais est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte? Sur la paracha de la semaine dernière? Vous trouvez des places libres? Ken, trouve de place là quelque part. Bien fait. C'est. Bien. Alors écoutez, avant d'arriver à la guerre des Midianites, je voudrais quand même qu'on parle très brièvement du début de la paracha. Alors prenez le début de la paracha de Matot. Parce qu'il y a là un enseignement que nous avons déjà rencontré certainement les années précédentes, mais qui me paraît important par rapport à l'état actuel de ce que j'appellerais la sociologie des communautés juives. Et vous allez tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Alors prenez le début de la paracha. Nous avons là une mitzvah qui concerne la disposition prise par la Torah concernant les vœux. Lorsqu'il y a un vœu de fait, que ce soit un neder ou une nedava, il y a écoutez, quand quelqu'un rentre et qu'il faut, vu son âge, s'occuper de lui, ne restez pas comme ça paralysé. Tout ce temps que vous êtes, je dis. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux catégories qu'on pourrait traduire en français par le terme de vœux, mais ce sont deux catégories différentes. Il y a d'abord le terme de neder. Neder, c'est faire un vœu de privation, c'est-à-dire s'engager à une sorte de, comment on dit en français, contenance, retenue, abstention. Okay. Ça, c'est un neder. Je sais qu'en français, il y a aussi une dimension positive de s'engager à quelque chose. Mais d'une façon générale, il y a eu dans les sociétés de l'Antiquité des confréries. Et d'ailleurs, c'est de ces confréries-là que probablement ont procédé énormément de sectes au temps du Deuxième Temple en Judée. Et probablement, une de ces sectes qui a fini par devenir le christianisme procède d'une de ces confréries mystiques. Et je dis ça un peu par association d'idées, parce que c'était beaucoup plus vaste à l'origine que la secte des Nazaréens, qui a donné les chrétiens. Il y a tout un problème historique, est-ce qu'il s'agissait vraiment du terme de Nazareth, puisqu'il y a deux Bethléem, mais c'est un peu compliqué, non mais c'est pas le sujet. Et c'est ce qu'on appelait le naziréa, en tout cas, en traduisant le terme hébreu de nazir, qui est devenu d'ailleurs dans l'hébreu moderne le terme qu'on emploie pour dire moine, ou, comme on dit pour les femmes, j'ai oublié, en français.
Moniale.
Moniale, ok. Et en tout cas, pour revenir au sujet, d'une façon générale, la Torah n'aime pas du tout cette conduite qui consiste à faire un vœu. Parce que ça consiste à s'engager sur une obligation qu'on se donne et que la Torah n'a pas prévue. Or, personne ne peut garantir à l'avance qu'on aura la force d'accomplir le vœu qui aura été formulé. Donc, premier principe, la Torah n'aime pas du tout cette conduite des vœux. Elle la tolère si c'est nécessaire pour aider la volonté à accomplir les devoirs que la Torah demande. Je veux dire que les vœux sont considérés comme une sorte d'aide, d'auxiliaire pour renforcer une volonté qui n'arriverait pas à s'exercer comme elle le voudrait, parce qu'il y a une différence entre le désir et la volonté, entre la volition et le vouloir, et il faut aider la volonté à réaliser ce que la vie intérieure profonde, ce que l'âme profonde voudrait, mais n'arriverait pas à décider de vouloir. Est-ce que vous comprenez la différence de niveau ? À la rigueur, c'est toléré comme une sorte de béquille de la moralité, comme une sorte d'aide à la bonne volonté, mais la conduite du vœu, ainsi défini, surtout vœu de privation, n'est pas du tout aimée par la Torah. C'est un sujet pour lui-même, réfléchissez bien. C'est le premier principe que je veux rappeler. Tant que celui qui a formulé un vœu ne l'a pas accompli, non, je vais procéder autrement, vous allez voir pourquoi. Dès que quelqu'un qui a formulé un vœu l'a accompli, il est appelé tzaddik. Non seulement il est appelé tzaddik, mais on considère que c'est pélé. La Torah dit « Adam qui afflit l'indor neder ». Mais c'est pélé, c'est une chose extraordinaire qu'on a réussi, une performance. Mais tant qu'il n'a pas accompli le vœu auquel il s'est engagé, il est appelé rachar. Il est appelé rachar de, et c'est ici un thème très important, d'une culpabilité pour laquelle il n'y a pas encore eu de faute, mais d'une culpabilité qui consiste à ne pas avoir encore réalisé un devoir à l'obligation duquel on s'est soumis. C'est le sens très précis du mot hébreu « hayav ». « Hayav », ça veut dire en hébreu « soumis à obligation » et donc « coupable ». Bien qu'il n'y ait pas eu de faute, coupable de ne pas encore avoir accompli l'obligation. On dit accompli ou réalisé l'obligation. Je mets ça en évidence parce que c'est une catégorie qui n'existe pas en français, le même terme qui signifie responsable, pas responsable, plus que responsable, soumis à obligation et coupable, hayab. Alors qu'en français, ce sont deux catégories absolument différentes. Être soumis à obligation, c'est avoir un devoir à accomplir, et le fait de s'ajouter un devoir supplémentaire au devoir que la Torah a prévu, c'est ça, ce vœu que la Torah n'aime pas. J'ai répété pour que ça soit clair pour ceux qui viennent d'arriver. Ils ont rien entendu. Donc. Et j'aurai l'occasion de le répéter. Et en particulier, le Talmud établit cela sur un point qui me semble important à reformuler. Je paraphrase un peu à la manière du Midrash, cette citation du Talmud que je vais faire. Au jugement dernier, on demandera compte des plaisirs permis que l'on s'est interdit. Ça, c'est une donnée talmudique extrêmement importante. Vous voyez à quel point c'est différent de ce qu'on pourrait considérer comme un puritanisme naturel qui irait de soi. Pour la Torah, ça ne va pas de soi. C'est tout le contraire au contraire. J'explique donc. Nous avons un grand principe qui va éclairer tout ce que je viens de citer. C'est que dès qu'une conscience est soumise à obligation, et je préfère employer en français le terme de devoir, c'est plus fort même que obligation, malgré l'étymologie, il y a une réaction, mérida, une révolte de la nature humaine. Et il y a une donnée naturelle de révolte contre les devoirs que l'on a. Le Yetzerara est contre. Le Yetzerto perçoit l'évidence de l'obligation. Et par définition, puisqu'il y a obligation, le Yetzer Hara est contre. Et donc, il est prévu que nous recevons par grâce une aide surhumaine qui s'appelle Siata Dishmaya, Ezrat Hashem, pour les mitzvot que la Torah nous impose. C'est-à-dire, nous avons une aide contre cette révolte du Yetzirah pour les mitzvot de la Torah. C'est la raison pour laquelle la tradition n'aime pas les vœux, parce qu'on s'est imposé une obligation contre laquelle on n'a pas, par rapport à laquelle on n'a pas d'aide. Est-ce que c'est clair, Jésus ? Alors, il faut savoir, et là, il y a une ruse de, disons, de la morale de type gréco-romain occidental. Alors, il faut savoir que la force du Yetzer est surhumaine. En morale littéraire occidentale, on feint de minimiser la force de ce que nous appelons en hébreu le Yetzer. C'est plus que l'instinct, c'est la charge affective de l'instinct. Et... Attendez, ça m'échappe, mais je... La Gemara dit, le Yetzer est de feu. Vous avez des formules de ce genre qui sont rappelées à Rosh Hashanah Kippour, d'ailleurs. Lorsqu'on plaide pour les faiblesses qu'on a eues vis-à-vis de l'instinct du Yetzer, alors on rappelle que le Yetzer est de feu, alors que nous ne sommes que, comment on dit, Bassar Vadam.
De chair et de sang.
Chair et de sang. Enfin, de cendre prématurée. Par exemple, me revient à l'esprit, mais je suis malheureusement dérangé chaque fois que quelqu'un rentre, ça m'échappe. Alors j'attends qu'il revienne. En tout cas, me revient à l'esprit une des plaidoiries de ce Noussar de Rosh Hashanah Kippour. Aneshama lach ve'aguf va'olach chusa ala malach. Je vous traduis l'expression, la forme grammaticale est sfaradite. Ach. Les Ashkenazim diraient, je ne sais même pas si ça existe dans nos Ashkenazim. Oui, ça existe. Aneshama lecha, ve'aguf lecha, chusa al paolcha. Ça veut dire, l'aneshama est à toi, et le corps est ton œuvre. Aie pitié de ton œuvre. C'est-à-dire, on plaide, parce qu'on sait vraiment que le Yetzer, c'est sérieux. Ça me rappelle ce que je vous ai cité à un ou deux cours déjà. Je vous ai cité, et je le rappelle encore, un enseignement de Jacob Gordin, mon maître, qui disait, la définition de l'athée moderne, c'est pas quelqu'un qui croit pas en Dieu, parce que Birlal, il sait pas de quoi il parle, puisqu'il y croit pas. Mais, asseyez-vous vite, parce que beau à la boue. Vous avez des chaises supplémentaires là-bas, arrangez-vous. Ben, descendez les chaises là-bas, ne perdez pas de temps, surtout. Alors, je vous rappelle cette citation, c'est que l'athée moderne ne peut pas être défini comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que il ne sait pas de quoi il parle. Nous avons tout un enseignement dans une sougia du Talmud à ce sujet, en Perek Chelek, qui est le 11e chapitre de la Maseret Sanhedrin. En fin de compte, on se demande, qu'est-ce qu'un apikoros ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est censé être défini comme athée ? Alors, la première proposition de définition, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu. Déjà au temps du Talmud, on descend de degré. C'est quelqu'un qui n'a pas le respect des rabbins. Parce que Dieu, c'est trop haut pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ceux qui savent parler de Dieu. Quelque chose comme ça. Donc, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce que c'est un rabbin ? Parce que sinon, on serait plein d'apicorsiles. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est que Jacob Verlaine disait, c'est qu'un athée moderne, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'existence du mal. C'est quelqu'un qui feint de ne pas admettre que le mal, c'est le mal. Alors, une dimension de cette ruse de la conscience moderne, c'est de feindre que la volonté humaine peut être plus forte que l'instinct, que la force de l'instinct. Là, il y a une, comme on dit en français, une le mot m'échappe. Comme on dit que quelque chose, une vérité qu'on feint de ne pas, dont on feint de ne pas voir l'évidence. Et l'explication que le Talmud donne, c'est que la force de l'instinct, c'est la force de l'espèce tout entière qui travaille à travers l'individu. Par exemple, l'instinct sexuel. Sa force est colossale parce que la force de l'espèce, mine, c'est une espèce. Okay? alors que l'individu n'est qu'un individu. Donc, étant donné la force considérable du Yetzer, de l'instinct, la Torah n'aime pas qu'on s'ajoute des obligations que Dieu n'a pas prévues, et par conséquent, par rapport auxquelles nous n'avons pas la hashgacha correspondante. Donc c'est très périlleux, un vœu. C'est clair jusque-là ? C'est pourquoi le verset dit « Adam qui afflit l'indor neder ». Lorsqu'un homme a ce courage de performance extraordinaire, exceptionnel, de faire un vœu. Alors il vaut mieux ne pas faire de vœu. Et maintenant, si un vœu a été fait, impérativement il doit être accompli. Et par conséquent, la Torah doit prévoir le cas de vœux fait imprudemment. Il y a des situations de la vie où on est pris d'un enthousiasme héroïque et on fait un vœu, tout en sachant d'autre part que ce n'est pas facile. Et alors la Torah prévoit les cas d'annulation des vœux dans le cas où le vœu aurait été fait imprudemment. C'est clair l'analyse, hein ? Et en particulier, alors nous avons là un enseignement particulier de la Torah qui a droit, qui est compétent pour délier ou annuler un vœu. Si vous étudiez la question, vous verrez qu'il y a deux, les ater neder ou les afer neder, il y a deux niveaux. Soit délier le vœu, soit l'annuler. Qui a prérogative pour cela ? Alors nous allons étudier comment la Torah introduit cette mitzvah, ce commandement. Je ne veux pas reprendre, ça nous prendrait autant de temps. C'est clair pour tout le monde de quoi on va parler. Alors prenez le texte. Vayaber Moshe el Rashi Amatot, et Moïse parla au chef des tribus. Vous savez que, comme on dit en hébreu, une tribu, classiquement Shevet, hein, mais même Shevet aussi a le sens de Maté, parfois. Maté, ça veut dire un bâton de commandement. Maté, ça veut dire un bâton. Mais dans ce sens-là, c'est le bâton de commandement. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, les rois, les chefs de tribu, avaient un bâton de commandement. Donc, maté, ça veut dire, par extension, ça veut dire donc tribu. Vaidaver Moshe el Rashi Amatot. Alors, on apprend que cette mitzvah va être formulée d'abord à l'intention des chefs de tribu. Ça va être l'objet de l'étude. Mais ça, on le sait d'autre part, que toutes les mitzvot, je veux dire quel est le schéma de transmission de l'enseignement de Moïse à Israël. Lorsque Moïse reçoit un commandement, d'abord il l'enseigne à Aaron. Certains commandements sont reçus d'abord par Aaron, et d'abord Aaron l'enseigne à Moïse. Ensuite, mais je reprends la filière de Moïse, après avoir enseigné ce commandement à Aaron, Moïse convoque les fils d'Aaron. Aaron étant présent, Moïse enseigne aux fils d'Aaron. C'est pas le même niveau de retransmission. Ça veut dire que Moïse formule l'enseignement pour Aaron, c'est à un certain niveau, là où est Aaron, et le reformule pour les fils d'Aaron, et Aaron assiste à la manière dont Moïse formule pour les fils d'Aaron après avoir entendu la manière dont Moïse l'a formulé pour lui-même. Vous suivez la pédagogie qu'il y a là, okay ? Après, il convoque les chefs des tribus. Et il y a une troisième formulation de l'enseignement. Il enseigne pour les chefs des tribus au niveau où ils sont. Aaron a déjà entendu deux fois, il entend une troisième. Et les fils d'Aaron qui avaient déjà entendu une fois entendent une deuxième. C'est-à-dire ils savent comment on doit enseigner à plus inférieurs qu'eux. Aujourd'hui, cette pédagogie a été malheureusement écrasée. Okay ? La hiérarchie des connaissances. Vous savez que du point de vue de la situation de connaissance, d'une façon générale de la vie spirituelle, personne n'est au même degré. C'est pourquoi une étude comme nous en menons n'est pas du tout traditionnelle. Ça, c'est vraiment ex cathedra, c'est cathédralique. La méthode traditionnelle, c'est qu'un maître enseigne à un élève à la rigueur d'eux, et ensuite ils étudient ensemble, ils vérifient entre eux, et puis on recommence avec le maître. Parce qu'il y a une manière de formuler qui est propre pour chaque conscience. Et le fait d'avoir une formulation objective, entre guillemets, je veux dire collective, devient une formulation impersonnelle. En réalité, l'expérience montre que chacun écoute ce qu'il écoute. Par conséquent, c'est la même chose qui est dite, mais chacun écoute quelque chose de différent. Vous avez remarqué ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Écoute Israël ». Mais en tout cas, c'est extrêmement difficile, dès qu'on aborde les données spirituelles, de formuler de la même manière pour chacun. Non seulement ça risque d'être pas compris pour quelqu'un d'autre, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Ce qui doit être dit à l'un est interdit de dire à l'autre parce que c'est contradictoire pour l'autre. Ce qui est positif pour l'un risque d'être négatif pour quelqu'un d'autre. Donc chacun a son chemin dans la connaissance. C'est bien clair ce que je dis ? C'est-à-dire que cet enseignement de type universitaire, entre guillemets, est absolument artificiel, et tout le monde le sait d'ailleurs. Et c'est pas en tout cas pas du tout traditionnel. Tout le monde le sait que l'université, c'est une mafia. Avec une erreur de prononciation, je vous parlerai des gâteaux de la mafia. Où les universitaires cherchent à repérer de futurs universitaires qui continueront l'université. Les autres, on s'en fout. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous avez remarqué ça, hein ? On repère des futurs mafiosi de l'université. Et c'est pour eux qu'on sera là. En tout cas, je reviens, il ne faut jamais exagérer. Il y a pire. en tout cas, je reviens au sujet. C'est que... Pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? Oui, mais pourquoi je vous ai parlé de ça ? Il me manque une chulia. Il a fait la manière dont Moïse enseignait. Bien. Et après, il convoquait l'ensemble du peuple et il enseignait au peuple. Et les chefs, enfin dans la hiérarchie, écoutaient comment on enseigne au peuple. Je dois vous dire d'ailleurs que traditionnellement, dans les villes, dans les communautés traditionnelles, nous avons gardé comme exemple privilégié le Gaon de Vilna. C'était le Gaon de Vilna qui, à Vilna, enseignait la parashat à Shavuot, le mincha de Shabbat, au cocher de fiacre. Alors qu'aujourd'hui, vous savez à quel point ce serait déchoir pour un grand d'enseigner au petit. Or, au point que lorsque le Gaon de Vilna est mort, aucun rabbin de Vilna n'a osé s'appeler le rabbin de Vilna. Il y a d'autres sectes, d'autre part, les sectes de Chassidim, où c'est comme ça. Vous avez, il y a une de ces communautés à Jérusalem, j'ai oublié quel est le nom de la ville, et comme je ne sais pas parler yiddish, les Ashkenaz vont m'aider. On les appelle les Chassidim morts. C'est Bresla ? Ah, c'est Bresla. Comment ça se dit en yiddish ? Ma ? Machou Kazeken. Top. Bon, vous avez compris. Et parce que depuis que leur maître est mort, il n'y a pas de successeur en titre. Même s'il y a un successeur en fonction, il n'ose pas prendre le titre. Je reviens donc au sujet. Et donc on savait d'autre part que les mitzvot étaient aussi transmises à un certain niveau aux chefs des tribus. On va se demander pourquoi celle-là, la Torah le précise et le rappelle. Et l'indique. Je continue. L'hymne Israël, pour les enfants d'Israël, au sujet des enfants d'Israël, les morts en disant « Zéhadaba, voici la chose, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné. Ish, lorsqu'un homme qui dorne d'air formulera un vœu, l'Hashem pour Dieu, ou Ishavar Shevura, ou bien jurera un serment, c'est comme ça qu'on dit en français, prêtera un serment, les Sorissa al-Nafsho, pour s'interdire une interdiction sur sa personne, lo yachel devaro, il ne doit pas transgresser sa parole. Kechol asher yot, kechol ayotze mipiv, comme tout ce qui est sorti de sa bouche, yahase, il fera. C'est un clause très important pour la Torah. Ce qui est dit est irréversible. Donc vous avez déjà appris, en tout cas, du point de vue moral pratique, pourquoi, effectivement, c'est traditionnel dans la vie juive de ne jamais faire de vœux. Et si jamais on fait une promesse, on dit tout de suite « blineder », que ça ne soit pas considéré comme un vœu. Ça, les plus érudits disent « blineder ou shvoa ». Et j'espère que ça a été suffisamment clair. Alors, étant donné la gravité du vœu, il faut comprendre qu'il y a des critères de compétence pour celui à qui on va confier la prérogative de diagnostiquer si le vœu est légitime ou pas. Et il y a les différents cas où le vœu n'est pas légitime, que la Torah va énumérer, vous l'étudierez par vous-même, mais je reviens à ce que dit Rachid, qui va nous permettre de donner une réponse à cette question. Lisons Rachid sur le premier verset. Halak Kavod, la Nessim, il a donné honneur au prince, et l'Amdam Techila, pour leur enseigner cette mitzvah d'abord, Vehacharkar l'Echol Bnei Israël, et après seulement à tous les enfants d'Israël. Ou Minaïn, Sheaf Shear Diberot, et d'où savons-nous que pour les autres paroles enseignées par Moïse, enseignant la Torah, c'est vrai aussi, on cite le verset qu'il indique pour tous les autres commandements. On revient donc à notre question. Rachid met ça bien en évidence. Nous savons d'autre part, dit-il, que ce kavod, cet honneur qui est partagé par Moïse avec les chefs des tribus, c'est vrai aussi pour toutes les autres misoles. Pourquoi en particulier ici? Alors prenez après le verset. Umara, après Kol Bnei Israël. J'ai raccourci pour gagner du temps. Umara, Leomra Kan. Qu'est-ce que la Torah a vu pour le préciser ici? L'Amad, c'est pour nous enseigner chez Hafarat Nedarim que l'annulation des vœux, Beyachid, peut se faire par un seul juge, Yachid, un juge unique, Mumché, à condition qu'il soit compétent. Il y a une différence entre le Dayan Mumché, un Dayan qui est compétent pour un certain nombre de cas, peut décider seul. C'est prévu très en détail par le Talmud. Quels sont les cas où un Dayan peut répondre seul? Et c'est très rare parce que nous avons un grand klal, un grand principe qui est indiqué dans une des Mishnayot du Pirkei Avot. Al-Pehi Dan Yechidi, She'en Dan Yechidi Ela Echad. En plus, c'est très joli la formulation. Ne sois pas juge unique parce qu'il y a un seul juge unique. Sinon, tu risques d'être juge inique. Mais je vous cite ça parce que énormément de Dayanim, ou en général des apprentis Dayanim, jugent tout seul. Et ça fait des catastrophes. Mais il y a certains cas, donc de jurisprudence talmudique, rabbinique, pour lesquels un juge unique est compétent à condition qu'il soit mumché. Alors donnez-moi un autre mot en français, plus que compétent, spécialiste. Ça me rappelle une histoire de l'armée, une histoire authentique mais vraie. On était un certain nombre de juifs ensemble dans le bataillon, et chaque fois qu'on avait besoin d'un spécialiste, il y avait toujours un juif qui levait la main. Alors, l'affaire, je m'appelle adjudant, je me demandais, mais en fait, quelle est votre spécialité? Alors, du spécialiste authentique. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a des dayanim qui sont mumchim de tel ou tel cas. Des im en yachid mumché, et s'il n'y a pas un juge unique, mais faire bishlocha et diotot, alors on peut faire l'annulation des vœux avec un tribunal de trois juges habituels. Idiot en hébreu vient du mot grec qui a donné le mot hébreu, le mot français idiot, mais ça ne veut pas dire idiot en hébreu. Idiot. Comment on pourrait traduire idiot en français châtier? Commun. Oui. Ordinaire. Très bien. Bien. Alors, ce Rashi nous induit un principe très important. C'est que, vu la nature de ce dont il est parlé ici, il faut diagnostiquer si le vœu est légitime ou pas, s'il est valable ou pas. Ça ne peut être que par un juge qui connaît suffisamment la psychologie des gens auxquels il aura affaire au tribunal. Et quand je dis psychologie, il faut aller plus profond que la psychologie, l'identité profonde. Et par conséquent, il n'y a que le chef de la tribu qui connaît les juifs de sa tribu. Et un chef de tribu ne peut pas être compétent pour une autre tribu. Alors, vous devez déjà... Quelle est la conclusion qu'on va tirer de cela? Aujourd'hui, nous vivons un temps de rassemblement des communautés, de profils d'identité très différents. Et nous avons malheureusement une sorte de règle qui a fini par s'installer, qui est très néfaste. Il y a une même manière de juger n'importe qui. Alors vous avez des juges hongrois qui jugent des juifs éthiopiens. Et vous avez des juges algériens qui juge des juifs corses. Bon, ben, vous voyez, jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire, c'est une espèce d'écrasement de la justesse de la justice qui est très néfaste. Il faut effectivement consulter un dayan, un rabbin, un juge qui est capable de comprendre celui dont il s'agit. Très souvent, on fait des catastrophes en appliquant une règle vraie pour un type de juif, un autre type de juif, pour lui c'est faux. Je ne sais pas si c'est clair. Alors oui, la gravité. C'est d'autant plus clair, c'est plus grave que ça induit une séparation entre ceux qui se résignent à cette espèce de impersonnalisation du jugement que j'appellerais d'une façon générale le monde orthodoxe, dans le sens étymologique. Je ne parle pas des charedim, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent à la loi comme elle est. J'en suis, en passant. Et puis des autres qui se disent ça ne marche pas, alors ils s'inventent des sectes. Les uns s'appellent conservateurs, les autres s'appellent libéraux, les autres s'appellent réformés, les autres s'appellent déformés, enfin... mais quoi qu'il en soit, c'est une situation très néfaste et auquel, si nous n'avons pas un jour un Sanhédrin qui porterait remède, je dois dire que les grands rabbins d'Israël, depuis plusieurs générations, sont très, très, avertis de ce problème et font tout ce qu'ils peuvent pour que les tribunaux rabbiniques tiennent compte de cela. Par exemple, en général, les tribunaux rabbiniques de Jérusalem ont toujours trois dayanim d'origine différente. Il faut au moins un ashkenaz, un sfarad, un yéménite, ou bien un ashkenaz, un sfarad, un chassid. En tout cas, trois approches différentes de... Je ne dirais pas de la halakha, c'est la même halakha, mais de la tribu que ça va concerner. Sinon, toutes les catastrophes sont possibles et imaginables, mais aucune idée. Je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires de fous, mais c'est ça ce qui se passe au Beit Din. Okay? Des choses invraisemblables, tout simplement parce qu'il y a un malentendu profond entre le Dayan et les gens qui sont devant lui. Vous avez compris pourquoi c'est important, cela. Que cette mitzvah en particulier, il fallait que la Torah dise qui est compétent, le chef de la tribu, à tous les niveaux. Ça peut être le sous-chef, ça peut être le chef de patrouille de la tribu, mais quelqu'un de la tribu. Vous avez compris le problème. Alors, il ne s'agit pas du tout de perpétuer ces divisions de l'exil que nous avons eues. Elles finiront par s'intégrer dans la société israélienne, mais la société israélienne elle-même aura une différenciation en province, une différenciation en tribu. Et l'origine en est les communautés de la Galoute. C'est bien clair. J'ai l'habitude de dire, vous savez que je suis un cas particulier dans le problème, puisque je m'appelle Ashkenazi tout en étant Sfaradi, et que finalement, Sfaradi et Ashkenazi, c'est notre identité de l'exil. Parce que Ashkenazi, ça veut dire allemand, et Sfaradi, ça veut dire espagnol. Et avec une générosité que seuls les juifs connaissent, inconscients, irresponsables, nous nous réclamons avec fierté du nom de nos pires ennemis. Ashkenazi, ça veut dire allemand, et espagnol, et Sfaradi, ça veut dire espagnol. Faut le faire. Je sais pas si vous expliquez. L'Inquisition et la Shoah. Qu'est-ce que c'est le... Alors moi, je culmine. Et je crois que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cela. C'est que nous souhaitons qu'arrive rapidement le temps. Ça arrive avec les petits-enfants déjà, où on se dira d'origine ashkenaz ou d'origine sfarad. Alors là, on se retrouverait un petit peu. Donc, mais quoi qu'il en soit, il n'est pas question que... Parce que c'est devenu atavique à travers 2000 ans. Il n'est pas question que nos origines disparaissent. Elles ne disparaîtront pas. Elles finiront par se marier, par s'unifier, mais elles seront là, 2000 ans d'histoire psychique, c'est important. C'est pourquoi, depuis mes maîtres, la consigne que j'essaye d'appliquer moi-même, c'est que les élèves que j'ai retrouvent le rite de leur grand-père. Et si c'était Ashkenaz, ça ne suffit pas Ashkenaz Kacha, c'est Ukhasin ou Mitnaged. Et ce n'est pas la même chose. Et si c'était nord-africain, ça ne suffit pas nord-africain comme ça, c'est ou tunisien ou marocain, ou pourquoi pas algérien. Mais quelqu'un de précis. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, alors on revient. D'ailleurs, ceux qui sont amateurs de couscous savent à quel point c'est important. En tout cas, pour revenir au sujet, d'autant plus qu'il y a déjà du couscous rite polonais. Ma femme me fait du couscous à la polonaise. Bon, en tout cas, je reviens. Les cornichons sont excellents. Au sujet. Simplement, une minute, je finis. Je voudrais ajouter une indication en vous donnant un exemple. C'est-à-dire, il faut rattacher ça à l'importance que la Torah assigne, à l'importance que la Torah considère.
Donne.
Accorde, oui. à ce que représente la parole. Et je vous donne deux indications. La première, ça m'a toujours frappé quand j'ai étudié dans Judas et Lévi, la classification des niveaux de l'être dans la créature. Je vous les rappelle très brièvement, mais pour mettre en évidence une règle qui concerne notre problème. Il y a d'abord le niveau de l'inerte, comme on dit en français. En hébreu, ça se dit « domem », le silencieux. Ensuite, il y a le niveau du « tzomeach ». « Tzomeach », c'est le végétal. Mais en hébreu, nous avons énormément de catégories verbales que le végétal, ça se dit le murmurant. Par exemple, « siach », la « suach ». « Basade », »,« siach », c'est le murmure. « Si »,« sichim », c'est déjà la végétation. Okay. Et ensuite, vous avez le « chai », le vivant. Plus que le vivant parlant qui est l'homme. Là, il y a sur ce point une parenthèse énorme à ouvrir, que je vous dis très très succinctement. Toutes les traditions ont toujours hésité sur la définition à donner à l'identité humaine parmi les autres êtres vivants. En général, la philosophie a préféré la définition de vivant pensant. Par exemple, la formule de Descartes que vous connaissez, c'est « animal raisonnable ». Mais ça veut dire « être vivant pensant ». Doué de raison, hein, raisonnable dans, chez Descartes. Pas raisonnable dans le sens adjectif sage. Et alors que la tradition talmudique a préféré, la Kabbalah à plus forte raison, le chayam daber, le vivant parlant. La différence spécifique de l'homme, plus que la pensée, c'est la parole. La parole en tant que communication d'âme à âme. Pas en tant qu'échange de signaux de communication. Ça, les animaux connaissent aussi. Mais surtout, nous vivons dans un temps technique qui montre l'importance de ce choix. C'est le fait que nous savons aujourd'hui que la pensée peut être impersonnelle. Il y a des machines à penser. Alors que la parole, c'est quelqu'un qui parle. La parole renvoie au sujet et à la dignité du sujet de la vie morale. Alors que la pensée peut être impersonnelle et au niveau de l'impersonnel, amorale, sinon immorale. En tout cas, amorale. Un théorème de mathématiques n'a rien à voir avec le bien et le mal. Tandis que une parole, un jugement, je cherche le terme logique en français simple, une phrase exprime un jugement, c'est quelqu'un qui parle et c'est sujet à un jugement. C'est pas pour rien que les logiciens ont appelé la phrase le jugement. Chaque fois que une personne parle, elle juge que ce qu'elle dit est à dire. C'est un sujet pour lui-même. Mais vous comprenez pourquoi c'est important de savoir que les rabbins ont tout de suite, dans cette discussion qui au Moyen-Âge a occupé tous les théologiens, tous les philosophes, quelle est la définition spécifique de l'homme en tant qu'être vivant? Eh bien, pour la tradition juive, ce n'est pas le vivant pensant, c'est le vivant parlant. Et vous voyez, et plus haut, il y a le prophète, c'est-à-dire le vivant parlant la parole de vérité. Et c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Alors vous voyez que le fil conducteur verbal, enfin sémantique, de cette catégorisation des niveaux de l'être, c'est l'enseignement Judas Lévi dans le Kuzari, c'est la parole. Il y a le silencieux, ça veut dire il ne parle pas. Il y a le murmurant, il commence à parler. Et il y a le vivant, mais le vrai vivant, c'est le vivant parlant. J'ouvre une parenthèse à propos de l'ânesse de Bilam. On a lu il y a pas longtemps avec Balak. Je me souviens de l'enseignement du Rav Kook. Et qu'on a posé la question, parle-nous un peu de cette ânesse de Bilam. C'est quand même un mystère dans la Torah. Une ânesse qui parle. Et comme vous le savez, le tort de Bilam, c'était de se, comment dire, de se lire de son mère, comme je ne sais plus traduire aujourd'hui. De se baser sur son ânesse, alors qu'il est écrit « En son prime à l'ânesse ». Mais... Et alors on lui a demandé un jour de nous parler de Bilam. Il dit, le vrai problème, c'est pas qu'une ânesse a parlé, c'est pourquoi les autres ne parlent pas. Et il nous a expliqué ça longuement. C'est-à-dire que tous les animaux ont une bouche, même si ça s'appelle autrement, c'est une bouche. Et comment ça se fait que les autres bouches ne parlent pas? Et alors il y a l'événement de l'ânesse de Bilam, c'est que pour les besoins de la cause, entre guillemets, cette bouche a parlé. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la prérogative de la bouche de parler, même la bouche d'une mouche. Je me rappelle de ce que dit le Midrash à propos de Salomon, qui comprenait le langage des animaux. Donc les animaux parlent, pour Salomon en tout cas. Hein. grâce à Dieu, ce n'est pas un déshonneur d'être moins sage que Salomon. Mais ça veut dire que, effectivement, la définition de l'identité humaine pour la Torah, elle est essentiellement dans la parole. Alors, peu de gens parlent. Beaucoup de gens bavardent, font du bruit avec la bouche. Personne n'ose parler. Parce que, pour se parler, il faut vraiment qu'il y ait une communication d'âme à âme. Et vous avez dû remarquer cela, quand les jeunes gens sont à la découverte du dialogue. Et ils ont une seule chose à se dire, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, dis-moi quelque chose? Tu parles du matin au soir. Et non, dis-moi quelque chose. Vous avez compris ce qu'il y a derrière, ce que je suis en train d'indiquer. Les gens ne se parlent pas, parce qu'il y a une panique. Se parler, c'est se livrer. Et alors qu'en réalité, il faut délivrer un message. Et finalement, l'homme exprime son identité profonde dans sa parole. Alors vous voyez la différence entre le prophète et Stam le Hayam Daber. Le prophète dit la parole de vérité. Alors que le Hayam Daber, eh bien c'est très rare quand il parle vraiment, il fait du bruit avec la bouche, comme je dis. Hein. C'est ce qu'on appelle Devarim Betelim. Sicha Betela. Ça y est, c'est clair? Top. Et alors, par conséquent, c'est très important de savoir que pour la Torah, la dignité des dignités, c'est la dignité de la parole donnée. C'est la dignité de la parole, tout court. C'est pas pour rien qu'il y a tout ce vocabulaire de la parole créatrice. Dieu crée le monde par sa parole. Et j'arrête là. Cette parenthèse, je crois que c'est suffisamment clair. Et donc, lorsqu'il y a engagement par la parole, c'est important. C'est le verset que nous avons lu. Et puis, je vais vous donner un exemple, comment le Talmud, sur un problème très précis, en tient compte. Je crois que c'est le troisième chapitre de la Masechet de Gittin. Vérifiez, je crois que c'est le troisième chapitre. Alors, là, le Talmud parle